parler de quelques défauts, quelques difficultés au confessionnal et dans le ministère du mariage. D'un point de vue très concret, très pratique, mais très réel. Je n'ai pas cherché ce que je dirais dans les conférences, mais c'est parce que j'avais quelque chose à faire remarquer que M. l'abbé Aulagnier m'a dit « il faudrait le dire dans des conférences ». Un défaut des plus courants. Un défaut des plus courants est la manière de traiter les récidivistes. Nous sommes tous affrontés à... Nous sommes tous affrontés à ce problème des récidivistes et multi-récidivistes. Spécialement chez les jeunes, et spécialement chez les jeunes garçons d'ailleurs, encore plus. Enfin, même chez les adultes, qui ne pratiquent pas, par exemple. Et puis, on nous a tellement prêché la douceur, la bonté, la gravité de refuser l'absolution, que nous nous sommes fait un principe pratique. Eh bien, tout ça, c'est des péchés de faiblesse. Alors, il faut présumer les bonnes dispositions et on absout, on absout, on absout, on doit absoudre. C'est évidemment abusif de raisonner ainsi. Dans la pratique, on a bien raison, mais il manque quelque chose. C'est abusif de parler ainsi. Parce que si l'on absout comme il faut... Si l'on absout, je ne suis pas si grand que ça, 1m69 au garrot. Si l'on absout comme il faut, eh bien, les péchés doivent diminuer. Si les péchés ne diminuent pas, c'est que le sacrement de pénitence manque d'efficacité. Or, c'est à nous de veiller qu'il ait une efficacité. Donc, je ne dis pas qu'il ne faille refuser l'absolution, mais certainement, la récidive multiple est le signe que nous n'avons pas fait notre devoir. Ce qui est important, c'est donc de faire en sorte que les récidivistes prennent les moyens. Que nous présumions qu'ils sont de bonne volonté. Oui. Surtout, il faut quand même y faire attention chez nos bons tradis. On peut pas traiter d'une façon générale les gens qui viennent nous voir comme du tout venant et appliquer systématiquement ce que saint Alphonse disait et donnait comme conseil. Nous avons des gens qui sont sérieux, nous avons des gens qui ont fait même des exercices de saint Ignace, qui connaissent qui pensent aux fins dernières. Il ne s'agit pas de les rejeter a priori. Alors, quelles sont les dispositions suffisantes et nécessaires et suffisantes pour recevoir l'absolution? Pour recevoir l'absolution, il faut la contrition, la douleur, mais au sens de contrition, et il faut le ferme propos. Ferme propos qui fait partie de la contrition. Il n'y a pas de contrition sans ferme propos. Seulement, il faut ces dispositions au moment de recevoir l'absolution. C'est-à-dire que la faiblesse peut faire que ces dispositions, quoique réelles au moment de recevoir l'absolution, cessent, disparaissent, affaiblissent, et que finalement, l'on retombe dans le péché. Alors que prévoir que quelqu'un retombera dans le péché, le prévoir à vue humaine à coup sûr, n'est pas une raison suffisante pour refuser l'absolution. Ce qu'il faut juger, c'est les dispositions présentes. Lorsqu'il s'agit de péché de l'esprit, ces dispositions présentes supposent une tournure d'esprit qui font que dans le vent, on ne retombera pas. Si vous devez absoudre un hérétique, en principe, il ne sera pas multirécidiviste dans son hérésie. Mais lorsqu'il s'agit de péché de faiblesse, c'est essentiellement un péché de la chair, ou bien les péchés qui naissent de la paresse, le manque de pratiques religieuses, le manque de pratiques du dimanche, qui naissent de paresse, on en connaît tous, qu'est-ce que vous voulez, qui tous les dimanches matins se lèvent pour aller à la messe, mais se lèvent un peu trop tard, et finalement jugent que eh bien, c'est raté pour cette fois, ça sera bon pour la fois d'après. Alors donc, cela, il ne faut pas juger sur ce qui risque d'arriver, mais sur les dispositions présentes. Seulement, lorsque il retombe régulièrement, on peut se demander s'ils ont le ferme propos. Et l'on doit bien avouer que beaucoup de nos jeunes qui ont des possibilités très larges de se confesser, que nous accueillons avec d'autant plus de bienveillance que nous sommes jeunes nous-mêmes, que nous avons été formés à être constamment disponibles. Quoique nous ne le soyons pas assez, nous sommes quand même plus que... nous sommes largement à la disposition des fidèles. Alors pour ça, c'est facile, vous comprenez. Ils ne le disent pas exprès, ils ne se font pas un mauvais raisonnement. Mais c'est facile. Si l'on tombe, on va se confesser. Et si l'on tombe souvent, on se confesse souvent. Monsieur l'abbé a dit qu'il fallait se confesser souvent. Ne passez pas 24 heures dans le péché mortel. Venez toujours vous confesser. Ou bien si l'on en est comme le père Bariel, vous pourrez toujours me trouver de jour comme de nuit, je serai à votre disposition. Et c'est facile. Et ça veut dire qu'on est à la disposition de jour comme de nuit pour des gens qui finissent par cesser de faire des efforts. Il faut donc nous assurer qu'il y a un véritable ferme propos. Et très certainement, je crois, et je me jette le premier la paire bien entendu, que beaucoup de confesseurs sont coupables de ce que leur jeune pénitent, pourrissent si longtemps dans le péché. Je suis passé dans une école, peu importe laquelle. Je me suis mis au fond un dimanche matin. Les confessions dans cette école ont lieu en milieu de semaine. Il y a au moins 30 élèves et des grands qui ne pouvaient pas communier. Alors vous enlevez ceux qui n'étaient pas bien disposés, qui ne voulaient pas, qui... Bon, très bien. Et je m'en suis ouvert à quelques élèves en qui j'ai confiance et qui m'ont dit « Mais monsieur l'abbé, mais c'est toujours comme ça. » J'ai dit « Mais parce qu'ils ne se confessent pas, ils se connaissent entre eux. Parce qu'ils ne se confessent pas. Oh non, monsieur l'abbé, ils se confessent tous. Mais du mercredi au dimanche, c'est trop long. » Ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'école ? Oh, plusieurs années, monsieur l'abbé. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Nous sommes manifestement coupables. Je ne parle pas d'absoudre une fois, 10 fois, 100 fois, d'absoudre des années. Alors, Saint Alphonse nous donne des signes. Il commence par les larmes. Bon, ça peut être des signes. Il donne un signe beaucoup plus intéressant. Un moins grand nombre de péchés dans les mêmes circonstances. Alors évidemment, c'est pas très théologique. Avez-vous moins péché? Si vous avez péché, mais moins, je vous donne l'absolution. Bon, il faut le présenter de façon à ce que ce soit pas un encouragement au péché. Mais un récidiviste qui a péché moins qu'avant, alors véritablement, il a fait la preuve de son ferme propos. le fait d'être retenu plus longtemps. Il a pêché autant, mais plus tard. Le fait d'avoir pris des moyens pour se corriger, et ça c'est très important. Nous avons des récidivistes qui jeûnent. Raisonnablement peut-être, quelquefois leur jeûne est un peu symbolique, mais ce symbole est quelque chose. Les aumônes, dit saint Alphonse, faire raison, venir à la messe. Ceux qui, des garçons qui viennent à la messe plus souvent parce que justement ils veulent s'en sortir. La fuite spontanée des occasions. Dans le cas qui nous occupe, les occasions, qu'est-ce que vous voulez, les gens les portent avec eux. Et ils ont leur propre faiblesse en eux-mêmes. Mais enfin, on pourrait dire la fuite d'occasions pas vraiment pécamineuses, mais qui pourraient, vous voyez, faire plus particulièrement attention à ne pas se mettre dans des situations même dangereuses de loin. Le fait d'avoir obéi au confesseur. Le confesseur a demandé un certain nombre de prières, par exemple, un certain nombre de moyens. Le fait de les avoir faits, de les avoir accomplis, est la preuve d'un véritable ferme propos. Le fait de demander au confesseur des moyens, des conseils, des indications. Le fait de s'être confessé spontanément, mais c'est ce que saint Alphonse dit, surtout si l'on a fait un long chemin pour venir se confesser. Dans l'exemple que je vous ai pris, évidemment, ce signe ne va pas. Parce qu'il est tellement facile de se confesser que je n'ai pas la marque d'un véritable ferme propos. C'est la marque d'une foi réelle. C'est la marque d'une espérance réelle, vertu réelle d'espérance. De confiance en Dieu, en la miséricorde de Dieu. C'est la marque d'un début d'amour de Dieu. Je n'ai pas la marque d'une véritable contrition. Voilà, je crois donc que l'on doit demander aux pénitents, en fonction de cela, tout d'abord de prendre des moyens. Alors, le premier moyen est effectivement la confession fréquente, mais à condition qu'elle soit bonne. Il n'y a pas de risque d'abus de confession si l'on vient se confesser souvent pour ne pas tomber. Alors, on doit demander dans ces cas-là aux pénitents de régler ses confessions sur le rythme du péché, mais non pas pour venir se confesser aussitôt avoir péché, mais pour se confesser avant d'arriver au point de rupture. Alors là, ils peuvent venir tous les jours. Ils ne risquent pas d'abuser. Il n'y a pas de problème. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut parler en tout premier de confession fréquente. La confession est un remède contre les péchés, mais elle est un remède également contre les péchés à venir, et pas seulement contre les péchés passés. Il faut, alors dans ces dispositions, on peut demander la communion fréquente. Et il faut la demander bien évidemment. Le troisième moyen, tout ça ce sont des choses que nous savons tous, ce sont des choses hyper évidentes. Le problème c'est que peut-être nous n'osons pas les imposer quand nous avons affaire à des récidivistes. Troisième moyen, la dévotion à la Très Sainte Vierge. Il est évident que ne serait-ce qu'une dizaine de chapelets tous les jours, c'est déjà un moyen. Quelle est la dose de médicaments, si je puis dire, qui suffit dans un cas pareil? Mais c'est celle qui fait de l'effet. Qui fait de l'effet. Qui porte du fruit. Ah, vous avez des bons chrétiens. Oh, moi, je suis un peu. Moi, je dis ma dizaine de chapelets tous les jours. Oh, à peu près tous les jours. Et vous êtes encore un multi-récidiviste? Ben, c'est qu'une seule ne suffit pas. Alors, vous allez commencer, la plupart du temps, ils sont multirécidivistes, vous priez, le matin, le soir, oui, je dis à notre Père, je vous salue Marie. Bon, alors, vous commencerez par trois, je vous salue Marie, vous voyez, on peut graduer, ça dépend à qui on s'adresse. Je ne dis pas qu'il faille imposer le chapelet, qu'il faille imposer une dizaine de chapelets, qu'il faille imposer trois, je vous salue Marie, il n'y a pas de truc. Nous avons affaire à des pénitents pour lesquels trois « Je vous salue Marie » est un réel effort et un véritable moyen positif de sortir du péché. Vous en avez d'autres, que ce que vous voulez, à moins de 2 dizaines par jour, on ne pourra pas dire qu'ils ont fait un effort. Là, c'est à vous de juger. Il n'y a pas de principe. Je dis une dizaine de chapelets, parce que la dévotion à la Sainte Vierge est la première de toutes les dévotions, surtout quand il s'agit de faiblesse. Or, les récidivistes sont des faibles. La fuite des occasions. Alors, la fuite des occasions, elle est absolument imposée rigoureusement, alors là, sous peine de refus d'absolution, s'il s'agit d'occasions graves et libres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas absoudre celui... qui garde des cassettes vidéo porno. C'est une évidence qu'il ne veut pas les jeter, les brûler. Bon, enfin, quelquefois, et nous le savons bien tous, ces cassettes vidéo porno, elles appartiennent aux pères de famille. Alors, ils ne peuvent pas les brûler. La télé, cette foutue télé qu'ils regardent en cachette, ils ne peuvent pas l'acheter par la fenêtre, malgré le désir qu'ils en auraient. Alors là, il y a la fuite des occasions nécessaires, essayer de fuir, enfin nécessaires, on ne peut pas les fuir parce qu'elles sont nécessaires, enfin, la prudence, se tenir beaucoup plus sur la réserve, ou bien la fuite d'occasions qui sont libres, par exemple certains camarades, certaines situations qui peuvent être dangereuses. Et puis, il y a d'autres moyens que votre prudence trouvera, examinera, pourra conseiller ou imposer. Il y a enfin les moyens du confesseur lui-même. Il est d'une stricte évidence que... c'est à nous de faire ce que le pénitent ne peut pas encore faire. Timon David le rappelle très expressément et très nettement, ça a été publié dans le BO. Saint Jean Bosco le dit de façon plus cachée, mais il en parle quand même beaucoup. Je pense qu'il n'est pas inutile de relire ce texte de Timon David. Enfin, nous ajouterons que souvent l'habitudinaire, c'est-à-dire le récidiviste, il y avait au XIXe siècle souvent une confusion entre habitudinaire, celui qui a une mauvaise habitude, et récidiviste, celui qui retombe dans la mauvaise habitude. Enfin, nous ajouterons que souvent l'habitudinaire ne le devient que par la faute des confesseurs, Si avec un zèle ardent, soutenu, fruit lui-même d'un grand principe de foi, le confesseur avait arrêté son pénitent dans les débuts. Plus tard, on n'éprouverait pas de tels embarras. Si vis me dolere, dolendum est primum. Le confesseur attristé des chutes de son pénitent, comme d'un malheur personnel, trouve dans sa douleur de grands moyens de conversion. Qu'on ne répète pas sans cesse que les sacrements opèrent ex opere operato, l'opus operantis, c'est-à-dire la foi du confesseur et les bonnes dispositions du pénitent, augmentent la grâce du sacrement. Et s'il y a des habitudinaires rebelles à tous les soins, à toutes les industries du zèle, on en convertit un grand nombre par ces soins. Saint Ignace, ayant épuisé toute son éloquence et toute sa théologie sans pouvoir convertir un jeune homme, en faisait la conquête en se plongeant dans un étang glacé. Sans doute tout le monde ne peut en faire autant. Je connais certains directeurs d'œuvres de jeunesse, c'est lui-même, et qui risqueraient d'y passer toute sa vie. Mais cela prouve l'efficacité des peines d'un bon confesseur. Monsieur Allemand disait « La vie d'un père de jeunesse doit être un martyr continuel ». La prière, un autre texte, du même. La prière est le troisième et le principal moyen. Si le pénitent prie, il guérira, et s'il ne prie pas, il faut que le confesseur le fasse pour lui. D'une manière ordinaire, en le recommandant tous les jours au memento de sa messe, d'une manière extraordinaire, en s'imposant des pratiques, des mortifications même, pour le salut de ses pauvres petites ouailles. Hoc genus demoniorum, non igitur nisi per orationem et iunium. Voilà par où nous péchons, nous autres prêtres. Nous ne sommes pas assez pères, nous n'aimons pas assez les âmes, nous ne les aimons pas comme Jésus-Christ. Les bons prêtres donnent leur temps, leurs soins, leurs conseils, mais bien peu vont jusqu'à s'imposer des pratiques pénibles, de longues prières, des pénitences, des aires, des disciplines et autres choses, bien dures j'en conviens, mais à peine proportionnées à la grandeur du résultat. Tout cela ne vaut-il pas mieux que de voir croupir une âme dans le vice, dans la disgrâce et l'inimitié de son Dieu? Je sais bien que nous ne pouvons nous sacrifier entièrement pour chaque âme, la vie serait impossible. Mais, entre cette exagération hélas si rare et cette nonchalance hélas si commune, n'y aurait-il pas un juste milieu? C'est à quoi nous devons tendre. J'ajoute que les pénitents sont très encouragés lorsqu'on leur dit que l'on priera pour eux. Je demande avec précaution parce qu'il y en a qui ne veulent pas faire retomber sur le confesseur le poids de leur péché et qui fuient un confesseur qui va s'imposer, dont ils savent qu'il s'imposera des pénitences pour eux. En disant « ça suffit de faire un malheureux, je ne veux pas en faire un deuxième ». Donc, il faut être prudent. Et il ne s'agit pas non plus de se flaquer ce petit orgueil, de dire « Ah, mais moi, monsieur, attendez, je vais prier pour vous. » Mais il est certain qu'ils sont rassurés. Qu'on leur dise d'une façon générale qu'on prie pour eux, ou même qu'on leur dise qu'on va prier pour eux d'une façon spéciale. C'est affaire d'expérience. Donc, il faut y aller prudemment. Mais l'expérience nous montrera ce qui est bénéfique. Les jeunes spécialement, dont les péchés, surtout les péchés d'impureté, sont liés à une crise affective, personne ne m'aime, sont rassurés de voir que, malgré leurs péchés, même dans leurs péchés, quelqu'un les aime et va les en sortir. On peut toujours les encourager également en leur disant que c'est à charge de revanche et que lorsque on les aura aidés à s'en sortir, ils pourront rendre ça en prière pour d'autres ou en acte d'amour de notre Seigneur d'une façon ou d'une autre. Actes qui leur seront rendus plus faciles et qu'ils ne refusent pas de faire, ce ne sont pas des pénitents qui refusent de se sacrifier, ce sont des pénitents qui n'arrivent pas à se sacrifier. Mais qui, lorsqu'ils sont libérés, eh bien, volontiers, font du coup ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Des questions là-dessus ?
Il semble que le professeur devrait aujourd'hui, vu l'importance des kiosques, faire attention aux lectures éventuellement que les enfants prennent. Il n'y a pas que la télévision, je crois, il y a aussi les kiosques et toutes ces revues porno. Alors, en famille, dans le milieu, j'imagine que la télévision, ça va être quand même relativement difficile de voir. Mais quand les enfants vont et viennent de l'école à leur famille, ils sont souvent en train, et il y a les kiosques, et là, libres, ils peuvent éventuellement voir ces revues qui pullulent, Et donc, je pense que c'est des occasions prochaines qui, sur lesquelles il faudrait peut-être aussi attirer l'attention de l'enfant.
Oui. Oui, on peut pas tout dire. Hein. C'est, il y a ça, mais il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a des jeunes. Ce que vous dites, M. Abbé, me fait penser à l'externat par rapport à l'internat. Ce sont des problèmes qui n'existent pratiquement pas en internat, beaucoup moins en internat, ça. Il y a des jeunes à qui il faut dire, vous ne vous sauverez que si vous demandez à votre père de vous mettre dans une bonne pension. Et il y a des jeunes qui le savent. Des jeunes qui le savent. Et il suffit que le jeune demande pour que le père finisse par céder. Alors je dis, il faut être très prudent, il ne s'agit pas de mettre le jeune dans des situations impossibles, en conflit avec son père qui ne veut pas payer la pension. Mais quelquefois, quand on a affaire à des jeunes encore d'âge assez tendre, la confiance en la maman ou dans le papa est suffisante pour qu'on leur demande d'aller avouer non pas la faute, mais ce qu'il faut pour que le papa ou la maman prennent les moyens. J'ai eu un cas récemment, c'est rare qu'ils acceptent, mais j'ai eu un cas récemment où le pénitent en fin de confession m'a dit « Ah, monsieur l'abbé, j'arriverai jamais à en parler. Juste après moi, il y a mon père qui attend pour se confesser. Dites-lui tout ça. » Après avoir reçu l'absolution, « Dites-lui tout ça. » Alors ça, c'est pain béni. « Monsieur, je vous donne l'absolution que si vous prenez les moyens. » Si vous gardez cette télé, je ne vous donnerai pas l'absolution. Vous êtes coupable des fautes de votre fils. Bon, réponse du père, oh, je m'en doutais un peu, la télé a maintenant pratiquement disparu de la maison, mais vous faites bien de me le dire, il y aura une étape supplémentaire. Le problème, c'est que souvent, on ne peut pas les toucher, les premiers coupables, les parents, dans ces cas-là. Alors oui, il y a les lectures, il y a les mauvais camarades, hein. Voilà, d'autres questions. Oui, monsieur.
Vous parlez en fait du cas où le confesseur le confesse régulièrement, le voit régulièrement. Alors on a souvent des cas où c'est des enfants dont on sait qu'ils sont récidives, enfin des jeunes, et alors ils vont voir tantôt un abbé, tantôt l'autre, etc. Donc on le sait, bon, lui refuser l'absolution parce que bon, c'est peut-être du bien, c'est difficile parce que pour le coup, ça se trouve, ça le découragerait. Ça peut marcher dans cette pédagogie que vous préconisez, elle peut marcher dans le cas où on voit régulièrement le pénitent, notamment le confesseur régulier. Mais dans le cas où on ne voit pas, puis d'autant que cet enfant justement est dans un établissement public, etc., il y a des circonstances invraisemblables. Bon.
L'enfant qui peut avoir, bon, prenons l'enfant parce que c'est le cas le plus clair et le plus courant, hélas, l'enfant qui peut avoir un confesseur régulier et qui refuse, il n'est pas digne de l'absolution, parce que justement il refuse les moyens de se sortir de son péché. Bon, le problème, c'est que souvent, ils ne refusent pas positivement, ils ne peuvent pas. À ce moment-là, il y a un bon moyen qui consiste à conquérir la confiance de l'enfant et à lui dire, bon, ben voilà, les autres confesseurs confessent à la va-vite, c'est un autre problème dont je voudrais parler, confessent à la va-vite, ils n'ont pas réussi à voir votre problème, ils n'ont pas eu le... Il faut dire ça sans critiquer les professeurs, les confesseurs, mais enfin, il faut quand même que l'enfant se rende compte que ben, ça fait un nombre incalculable de fois qu'il se confesse à un tel et un tel, et que jamais on lui a posé la question, savoir quel moyen il prenait, si ça allait mieux, si c'était moins fréquent, si c'était... Non, jamais on s'est préoccupé de savoir. Et comme vous dites, pourtant on le sait quelquefois. Alors, on peut très bien dire à l'enfant, bon, bah, écoutez, confessez-vous comme vous le faites bien régulièrement au confesseur qui vous tombe sous la main, mais n'oubliez pas de venir me demander des conseils, et moi je vous en donnerai, et si vous ne les suivez pas, bah, je serai obligé d'être un peu sévère, un peu, pour les affoler, hein, un peu sévère avec vous, parce que sinon, je ne ferai pas mon devoir. Alors, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont plusieurs confesseurs, mais... un directeur, enfin, un vrai guide.
Dans ce domaine-là, c'est un peu hors confession, mais ça touche un petit peu le rôle que nous avons à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avertir les enfants? Est-ce que jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y a part des parents? Qu'est-ce qu'il y a part...
Attendez, pour avertir les enfants par rapport à quoi?
Justement par rapport à ce péché de l'impureté. Parce que... il faut que l'enfant soit au courant. Mmh. Et bon, je vous demande ça par rapport à une école.
Bon, c'est un sujet trop vaste que je ne veux pas traiter ici parce que, enfin, à moins que tout le monde soit intéressé, mais et puis très délicat, très difficile, compliqué du fait de l'impureté moderne qui fausse les réponses à donner. Et une femme comme Luce Kennett, dont je n'apprécie pas nécessairement tous les enseignements dans le livre, et dit bien que ce qu'il faut faire pour préserver des enfants qui vivent dans un monde impur, ben elle ne le sait pas et son bouquin ne s'adresse pas à ça. Alors que c'est le problème le plus fréquent que nous ayons. Alors, c'est dire si même une femme d'expérience qui s'est permis d'écrire un livre sur la pureté n'a pas réussi à trouver les solutions.
Parce que bien souvent dans la confession, ce qui va bloquer un peu l'enfant, si c'est qu'il n'est pas, faut qu'il soit sûr déjà, c'est pas un péché mortel, qu'il pas laissé dans le doute, si vous voulez.
Ah, alors là.
Est-ce que c'est uniquement du domaine de la confession ou... faut qu'il soit sûr déjà, c'est pas un péché mortel, qu'il soit pas laissé dans le doute, si vous voulez.
Ah, alors là.
Est-ce que c'est uniquement du domaine de la confession ou est-ce qu'il y a est-ce que le prêtre a un autre rôle à jouer?
Bah, vous m'obligez à répondre alors. beaucoup de prudence, beaucoup de délicatesse, mais ça n'empêche pas de donner des coups de bistouri. Éventuellement un peu plus profond qu'il faudrait pour ne les donner qu'une fois. Ça m'est arrivé très souvent de voir que des enfants avaient souffert d'une trop grande délicatesse qu'on ne peut pas reprocher à des confesseurs parce que je crois qu'il vaut mieux que le confesseur malgré tout soit trop délicat que trop peu. Mais enfin, quand on se met à avoir un peu d'expérience ou qu'on connaît l'enfant depuis longtemps, j'ai eu des conversations, quelquefois au confessionnal, quelquefois en dehors. Je pense à des cas d'enfants qui m'ont obligé à donner la réponse. On dit, monsieur l'abbé, je ne vous lâcherai pas tant que je ne saurai pas. On finit par poser des questions qui seraient gênantes autrement lorsqu'on en a besoin pour savoir ce qu'ils ont fait ou pas. Bon, soyons précis avec vous, puisqu'il faut l'être avec eux. Pollution nocturne. Spécialement à demi éveillé et masturbation, il y en a qui ne savent pas la différence. Il faut donc quelquefois poser des questions qui vont. Et vous leur dites c'est une pollution nocturne. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une pollution. Mais pouvez-vous me jurer que vous avez fait un péché? Ah, mais vous le jureront plutôt 10 fois plutôt que de faire une confession sacrilège. Alors, pouvez-vous me jurer que vous n'en avez pas fait un? Ils ne savent pas. On arrive à des questions du genre, y avez-vous mis la main? Avez-vous provoqué spécialement ça avec la main? Oh, ça, monsieur l'abbé, jamais! Alors là, vous êtes éclairé. Quelquefois, oui, quand même un peu, oui, j'ai mis la main. Ah, ben, ça, vous êtes obligé de poser la question, oui, mais enfin, vous grattez un petit peu, ou bien vous carrément. Quelquefois, c'est rare, ça arrive une fois sur 1000, mais. On est quelquefois obligé de sortir cela, il faut être très prudent. Et alors, on a quelquefois des réponses de jeunes qui disent « Bon, écoutez, monsieur l'abbé, alors je crois qu'il faut que je fasse une bonne confession générale. » Ou au contraire, « Ah, ouf, alors, j'ai jamais perdu la grâce. » Comprenez, je ne voulais pas vous répondre là-dessus, parce que c'est très délicat, et puis, il faut quand même beaucoup d'expérience. Ne nous lançons pas là-dedans sans expérience. Il faut se méfier de notre jeunesse, il faut se méfier de la sentimentalité. Ne traitons pas de ces problèmes-là avec des enfants pour lesquels nous avons une affection sensible. Une affection surnaturelle, oui, mais une affection sensible, c'est dangereux. Soyons prudents. Et puis alors, il y a un critère. Si nous avons bien fait les choses, nous n'avons plus besoin d'y revenir. Si nous nous avons besoin de reposer les questions 10 fois, c'est que nous y sommes mal pris. En principe, une fois doit être la bonne. Quitte à aller loin, mais une fois doit être la bonne.
Il suffit peut-être de l'interroger sur la contrariété. L'avez-vous fait exprès? Ça reste général.
Oui, dans 9 cas sur 10, ça suffit. Mais j'ai eu cette année, en une année, plusieurs cas, dans un sens comme dans l'autre, de jeunes m'ayant dit « Ah, monsieur l'abbé, heureusement que j'ai vu l'abbé Intel, il m'a posé des questions, j'ai découvert que je n'avais pas péché. » À 19 ans. À 19 ans. Ou bien, au contraire, « Ah bon, monsieur l'abbé, heureusement que le père Intel, là, monsieur l'abbé Intel m'a dit ça, parce que vous savez, il m'a rectifié bien des choses. » J'ai connu des jeunes qui voyaient péché mortel dans un seul mouvement charnel. Surtout dans les consciences délicates, et nous en avons quand même si nous avons beaucoup de jeunes pourris.
Mais dans le même ordre d'idée, je voudrais répondre au problème des questions à poser ou ne pas poser. Je ne pense pas à ceux qui ont 19 ans, je pense à ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Il y a des moments où on sent qu'il faudrait peut-être questionner, mais on se dit, mais est-ce que je ne vais pas lui donner des idées qu'il n'a pas, est-ce que je ne vais pas me malter à ce moment-là?
Oui, c'est le niveau. Bon, il faut quand même faire confiance. Moi, bon, j'avoue que c'est ma politique avec les filles à l'école Saint-Thomas d'Aquin à Romagne. Oui, il vaut mieux après tout qu'un enfant. Parce qu'un enfant qui s'accuse de péché pour des mouvements charnels, il ne les a pas fait, ces péchés. Bon, il ne les a quand même pas fait.
Parce que vous avez parfois des gens relativement jeunes, alors aujourd'hui, vous savez, on ne sait plus, on sait plus où on en est. Autrefois, ça aurait été invraisemblable, mais aujourd'hui, bon, vu la propagande qu'il y a, c'est bien la même chose, qui parfois s'accusent du péché d'impureté. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dessous? On m'a cité le cas une fois dans une école, un prêtre qui avait reçu en confession bon, des enfants, et tous s'accusaient de péché d'impureté.
Oui, mais c'est ça, mais là, c'est quand vous avez. C'est l'expérience, plus vous en avez.
En fait, ça n'avait rien à voir.
Ah, ben évidemment, ça nous est tous arrivé. Il y a une question d'âge. À une petite fille de 10 ans, on fera comme M. l'abbé Ramé préconise. Bon, est-ce que vous l'avez fait exprès? Et puis, on s'arrête là. À des garçons de 18 ans, on ira au bout des questions. Là, je ne peux plus traiter. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, des récidivistes doivent prendre un traitement spirituel que nous devons leur donner, sinon nous sommes de mauvais confesseurs, et qu'ils doivent prendre pour être dignes de l'absolution. Voilà le point que je voulais développer. Hein. Le reste, après ça, rien ne remplacera l'expérience personnelle. Il m'arrive souvent, lorsqu'on me demande des conseils, de dire « je ne peux pas aller plus loin que le rappel des principes, qu'est-ce que vous voulez ?» Prenez vos risques. Vous vous tromperez, mais prenez vos risques. Alors prenez-les là où il y en a le moins, prenez-les du côté le plus prudent, le plus sage, du côté de la bienveillance, du côté de l'indulgence, toujours de ce côté-là, mais prenez vos risques, qu'est-ce que vous voulez. On ne peut pas assurer que toutes les confessions seront toujours parfaites, c'est pas vrai, et le bon Dieu ne le veut d'ailleurs pas pour notre propre humilité. Mais prendre ces risques, ça veut dire les mesurer et les prendre, et non pas les négliger.
Excusez-moi, vous savez, justement, dans vos médicaments, vous n'avez pas parlé de la prière dans les tentations. Ça me semble que c'est un très bon moyen.
Oui, évidemment, j'aurais dû préciser. Je parlais de la prière à la Sainte Vierge d'une façon générale.
Oui, enfin, au moment même des tentations,
oui, c'est vrai, vous avez raison.
Ça encourage beaucoup, je pense, les militants à faire ces efforts dont vous parlez.
Oui, vous avez raison.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très
bénéfique. C'est un oubli, vous avez raison. Ah, j'ai connu un pénitent qui m'a dit « Moi, je vois la tentation arriver, je me réfugie sur la croix de notre Seigneur. » Il me dit « Ça marche à tout. » Oui, je vais en parler de ça. Saint Jean Bosco mettait la fréquentation des camarades au premier rang des moyens à prendre. Il dit « Il faut classer les camarades en 3 groupes. » Les bons à rechercher, les mauvais à fuir et ceux du milieu à fuir aussi. C'est très important et ça va beaucoup plus loin que les questions de pureté, c'est une question d'état d'esprit. On doit des garçons, des filles et des adultes pareils, hein, si nous avons fait les cercles et tout le reste, doivent rechercher des amitiés qui les aident dans la vie spirituelle et fuir les amitiés qui les gênent. Je voulais parler de, puisque vous m'y amenez, je voulais parler de la question du scandale. C'est très bref, mais on le met très souvent, donc je pense qu'il faut en dire un mot. Après ça, je voudrais en venir aux scrupuleux, c'est beaucoup plus long. Beaucoup de confesseurs sont tellement attentifs à la contrition, qui est l'essentiel, et qu'ils en oublient la réparation du scandale. D'une façon concrète, lorsque vous avez des cas très épineux, et c'est pourtant concrètement, hein, je parle, la meilleure manière de bien traiter le cas est de bien faire une bonne confession. Alors, qu'est-ce que c'est que le scandale? Le scandale, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le scandale, c'est pas une faute grave. Le scandale, c'est ce qui a fait tomber d'autres personnes ou ce qui aurait dû ou pu faire tomber d'autres personnes. Vous avez donc des concubinaires qui ne sont pas scandaleux parce que tout le monde les croit mariés, et vous en avez d'autres qui le sont parce qu'on sait qu'ils ne sont pas mariés. De même pour plein d'autres péchés. Vous avez dans les écoles des enfants qui sont des cloaques d'impureté, mais pas scandaleux, et vous en avez d'autres qui sont des enfants proprement scandaleux. Timon David cite dans une école au XIXe siècle, parce que la nature humaine est la nature humaine avec ou sans télé et avec ou sans kiosque, d'un jeune qui avait fait une sorte de pacte avec serment de fonder une association pour faire tomber ses camarades dans le péché d'impureté et pour faire entrer le plus possible de camarades dans cette association et les soumettre au même serment. Il avait corrompu les deux tiers de sa division, il avait réussi à faire tomber 70 élèves. Alors, ça ne se passe pas avec cette ampleur dans nos écoles, mais ça se passe dans toutes les écoles. C'est pour ça que je n'admettrai jamais que des parents d'élèves disent qu'une de nos écoles est mauvaise parce qu'il se passe éventuellement des choses abominables chez nous. C'est la nature humaine. Et il faudrait dire à ce moment-là que des familles sont mauvaises parce que ça se passe aussi dans des familles. Ce qui serait gravement... Il y a des petites oreilles. Ce qui serait gravement coupable, c'est que nous ne prenions pas les remèdes. Mais quelquefois, ces remèdes, il faut 6 mois, 1 an, pour arriver à découvrir la source du mal. Même dans nos écoles. Je n'irais pas jeter la pierre à un directeur qui, au bout d'un an, finirait par mettre dehors des coupables qu'il n'aurait pas pu découvrir avant. Là où nous sommes coupables, c'est que nous, confesseurs, je parle, et pas les directeurs, justement, c'est qu'il n'est pas possible dans un cas comme ça que les confesseurs n'aient pas eu vent de la chose. Quand des camarades font tomber les autres. Et là, il y a scandale. Et on ne peut pas donner l'absolution s'il n'y a pas réparation du scandale. Et il est du devoir du confesseur de dire au complice, aussi bien qu'à la victime, qu'il ne recevra l'absolution que s'il va en dire suffisamment au directeur pour que le remède soit trouvé. En principe, il doit donner les noms des coupables. La belle Rançon m'a dit qu'à Saint-Michel, il ne l'exigeait pas de manière à faciliter les dénonciations dans ce domaine, et uniquement dans ce domaine, bien entendu. Bien entendu, uniquement dans ce domaine. Il a dit aux élèves, je ne vous demande pas les noms, dites-moi simplement ce qui se passe. Le reste, je m'en chargerai.
Mais ça, au moins, il faut le dire. Il est même évident que quelqu'un qui ne serait aucunement coupable, mais qui aurait connaissance de telles choses, de péchés externes et publics, pas évidemment de mal caché, de mots cachés, même s'il n'était ni le fauteur, ni la victime, devrait aussi, parce qu'il y a un devoir de charité, d'éviter le scandale, devrait révéler la chose pour qu'on puisse y remédier. Alors, j'ai constaté que souvent, nous, confesseurs, quand nous étions affrontés à des concubinaires qui se convertissent et qui veulent régulariser la situation, on est tellement contents qu'ils se convertissent, on pensait même pas à poser la question du scandale. Ah, il peut y avoir eu scandale dans la paroisse, souvent non, dans nos grandes villes non, mais il peut y avoir eu scandale dans la famille. Il peut y avoir eu scandale auprès de quelques personnes, bon pour les concubinaires, mais il peut y avoir eu scandale pour d'autres péchés également. Alors je pense qu'il faut que nous pensions à cela, que nous souvenions que nous ne sommes pas là seulement pour assurer l'intégrité de la confession, pour vérifier qu'il y a bien la contrition, mais pour rappeler aux pénitents son devoir de réparer le scandale. Alors le scandale se répare en fonction du dommage qui a été causé, dommage qui n'est pas mesuré par la faute, encore une fois, qui est mesuré par les circonstances.
Question, quelle est la possibilité du confesseur de savoir si le pénitent qu'on a envoyé, par exemple, chez le directeur, a fait son devoir de dénonciation?
Ah ben attention, vous avez deux choses. Hein. Vous avez ce qu'il sait en tant que confesseur, à ce moment-là, en principe, il ne revient pas dessus. Et nous savons bien que nous devons faire confiance au pénitent qui s'accuse dans la confession. Alors, qu'est-ce que vous voulez, s'il fait une confession sacrilège, à nous d'essayer de... Mais on ne peut pas toutes les éviter. Et il y a ce qu'il connaît en dehors de la confession. Alors, à ce moment-là, bon, ben, c'est différent.
Est-ce que le directeur aura une nécessité, ce serait une nécessité de la part du directeur de dire spontanément de sa part que tel élève se venait pas.
On entre dans des détails là et on ne peut pas régler ça du haut d'une estrade. Ce ne sont pas des principes que vous mettez en cause, c'est une question de prudence. Donc il faut réparer le scandale. La réparation de scandale est multiforme, il y a multiples manières de réparer le scandale. Il faut le faire, il faut veiller à ce que le scandale cesse. Maintenant, les moyens à prendre, c'est affaire de prudence, d'expérience, etc.
Vous dites réparer le scandale comme s'il s'agissait de faire uniquement cesser la chose, mais s'il n'y a pas plus à faire que pour réparer?
Oh oui, je dis réparer et faire cesser les deux, mais enfin, c'est celui qui fait cesser, déjà, il répare pas mal. Moi, j'ai eu un cas, je peux très bien raconter ça, parce que c'est devenu public, un groupe de jeunes. Et puis, un jour, je reçois une confession. Bon, il y avait eu de mauvaises conversations. Mauvaises conversations, qu'est-ce que vous voulez, c'est à deux, au minimum. Alors, bon, très bien, à deux seulement ou à plusieurs, 3, 4, 5, au revoir, à plusieurs. Bon, moi, je vous donne l'absolution, si vous me répétez ça en dehors. Pas, c'est trop grave. Tout le monde était impliqué et deux seuls qui n'étaient pas impliqués, c'était tu. Belle affaire. Et un an, monsieur l'abbé, alors il se met à discuter. Bon, je dis, écoutez, moi, il faut que vous poussiez les autres, alors à ce moment-là, à venir m'en parler, il faut que vous trouviez une solution. On ne peut pas rester avec un truc comme ça. Bon, finalement, le pénitent a trouvé la bonne solution. Et puis, les uns après les autres sont venus me voir, les uns en confession, et j'ai fait la même chose, j'ai demandé à le savoir au fort externe, et puis d'autres uniquement au fort externe, en disant qu'ils iraient se confesser à quelqu'un d'autre. Alors du coup, l'affaire était connue, tous les coupables étaient venus, c'était tous les membres du groupe, alors la question était réglée. Alors ça simplifie évidemment de beaucoup les remèdes après.
Alors, on peut en parler. On peut en parler. Ils savent très bien qu'on l'a appris en dehors de la confession. Ils savent très bien qu'il suffisait déjà qu'un seul le dise pour que nous fassions notre enquête et qu'il n'y en a plus d'un qui nous l'a dit. Et puis alors, du coup, on peut donner des conseils aux uns et aux autres. Voilà comment vous y prendre. Les deux qui s'étaient tus ne savaient pas comment il fallait agir. Je leur ai indiqué comment on agissait dans une circonstance comme cela. Et je suis par la suite qu'il n'y avait plus jamais eu de problème. Il y a eu des tentatives, mais alors qui ont été réprimées par les jeunes eux-mêmes. C'est évidemment l'idéal. Et c'est même allé plus loin, puisque les chapelets suivants, des jeunes tout à fait spontanément, troisième mystère douloureux, non, deuxième mystère douloureux, nous allons prier pour conserver notre pureté. Alors tous les autres... Alors, et puis le lendemain, mais c'est autour d'un autre, il a dit, il a bien raison, prier pour conserver notre pureté. La pureté chaque chapelet, il y avait une prière pour la pureté. Alors là, c'est pain béni, tout est gagné. Alors, pourquoi je vous racontais ça? Parce qu'il y en a quelques-uns à qui j'ai dit, écoutez, vous êtes plus coupables que d'autres, et moi, je vous impose une pénitence sacramentelle, mais également de prier pour ceux que vous avez fait tomber. Il y avait là-dedans un qui avait démarré le truc. Vous avez prié pour ça, vous avez fait tomber. Et j'ai imposé une pénitence pas lourde, mais répétitive pendant 8 jours, pour qu'il se rappelle, ma foi, il a fait une sérieuse bêtise. C'est une manière de réparer le scandale. Des questions? D'autres questions?
Bon, j'insiste beaucoup pour que les confesseurs qui connaissent. Chose grave qui se commet dans tel ou tel endroit ou dans telle ou telle école, qu'il soit perspicace. Et qu'il ne laisse pas une situation se perpétuer. C'est très important.
Je crois que les directeurs devraient faire des réunions de confesseurs. C'est très délicat et il est normal que ça ne se soit pas fait encore. Directeur ou d'autres, mais que des prêtres devraient faire des réunions de confesseurs. Évidemment, on va reparler de ce qui s'est dit en confession. Mais parce que confesseur de jeunes dans une école, c'est un métier particulier, c'est une spécialisation, hein, comme un chirurgien est un spécialiste par rapport à confesseur ordinaire. Et ce que je dis ici, ce que M. l'abbé répète, c'est le fruit de l'expérience.
Je me permettrais également d'ajouter une petite chose. Dans tous ces problèmes délicats, les parents sont mal à l'aise, souvent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intimité entre les parents et les enfants, parce que la mère travaille, parce que le père a du boulot, et ils voient rarement leurs enfants. Donc, il y a pas d'intimité, il n'y a plus de discussion familiale, et c'est bien que les parents sentent bien que l'enfant a des problèmes, et ils n'osent pas. Or, maintenant, le domaine médical, les enfants sont très suivis sur le domaine médical. Et il est très possible, et donc c'est pour le dire aux parents, quand un médecin dit à la mère famille ou père famille, votre enfant est assez évolué pour son âge, vous aimez bien que vous voyez les choses, vous parliez. Encouragez les parents, à ce moment-là, à ne pas oublier leurs devoirs et à suivre le conseil du médecin. Moi, je parle d'un cas particulier, donc j'en parle savamment aujourd'hui. Et les parents, après qu'ils aient connu les difficultés de l'enfant, étaient très amers en disant si nous avions été plus énergiques et plus attentifs au conseil, par exemple, du médecin, notre enfant n'aurait pas connu tout cela et ce petit drame qu'il a fait. Je crois qu'il ne faut pas hésiter pour les prêtres à dire aux parents, faites votre devoir d'éducateur de la chasteté. C'est à vous, parents, de voir quand vos enfants reviennent dans leur lieu de pension, dans quelle situation ils se trouvent. Faites votre devoir. Et il n'y a rien de plus heureux d'être initié, non point par le prêtre, mais par le père ou la mère de certains problèmes qui ensuite facilite toute tout chose.
Je crois que, enfin, vous me direz si vous n'êtes pas de mon avis, monsieur Abbé, je crois que lorsque nous avons en confession un jeune qui nous révèle des problèmes, si le père n'a pas fait son devoir, je crois qu'il est quand même heureux que nous, prêtres, nous disions certaines choses. Surtout quand ils ont une certaine connaissance de la nature des choses. Parce que nous avons un point de vue, comme disait monsieur l'abbé, nous avons un point de vue assez virginal. Et ils le sentent. C'est-à-dire que le léger déséquilibre qu'il y a, que ce soit nous qui parlions plutôt que leur père, encore que nous soyons pères spirituels, ils se rendent bien compte qu'il est rééquilibré par le fait que nous sommes à leurs yeux vierges, absolument, et totalement, comment dirais-je, au-dessus de tout problème. Je crois quand même. Hein. Je voudrais, à propos du scandale, je voudrais raconter une histoire. Elle est publique, donc pas difficile à raconter. Le voleur qui a sévi chez nous de multiples fois il y a 2 ans avant d'être mis en taule et qui a recommencé à sévir, c'est un garçon, c'est un de mes anciens élèves. Hein. Alors, un pauvre garçon, et il a suffisamment de foi, le jour de Noël, la veille de Noël, il fonce chez notre confrère du nom de monde, puisqu'on va le féliciter, M. l'abbé Bouchacourt, il fonce chez M. l'abbé Bouchacourt pour quand même remettre un peu d'ordre à sa conscience, dans sa conscience. Et l'abbé Bouchacourt connaissait bien son zouave, pensez donc, il était de sa région. Il ne m'a pas dit la suite, mais elle est aisée à reconstituer, puisqu'on sait la fin. Donc, on peut supposer que l'autre a fait une confession correcte et que l'abbé Bouchacourt a dû lui dire, mais je vous donnerai absolution, que si vous prenez les moyens de cesser ça, et puis de réparer les scandales, et puis de remettre un peu d'ordre...
Ajoutez pour l'amusement de la situation, c'était à 2h ou 3h du matin, oui. Les messes de minuit venaient de terminer de Noël, et l'abbé Bouchacourt avait plein de sous dans ses poches. Il se voit plus soutenu que le poursuit.
Qu'il connaissait.
Jusqu'au milieu. À 2h ou 3h du matin. Alors, il n'a plus d'abord que précaution. Attendez, d'abord. C'est un peu seulement qu'il a discuté.
Toujours est-il qu'on peut supposer qu'il a absous le lascar, il ne me l'a pas dit, il a bien fait de ne pas le dire. On peut supposer qu'il a absous le lascar, en tout cas, juste à la fin de la confession, il a pris le lascar par le cou, du consentement du lascar, ils sont allés au commissariat de police, et le lascar s'est dénoncé. Et il est à l'heure actuelle en taule. Et je ne dis pas qu'il faille le faire toujours, il ne faut pas le faire pour un vol. Il ne faut pas le faire pour des vols cachés qu'on peut réparer d'une autre manière, mais vu la tournure des événements, je félicite le confesseur d'avoir agi ainsi. Ah, il m'a dit qu'il trouvait ça normal, ben je le félicite 2 fois, parce qu'en plus, il a trouvé ça normal.
Oui, mais je aussi, il a la délicatesse d'aller le suivre.
Oui, bon, ben. Il va demander un permis. Évidemment, ça n'arrive pas très souvent. Alors, le gamin a été accueilli en prison comme dans un hôtel 3 étoiles. On ne l'a pas touché. D'habitude, on les cogne. On ne l'a pas touché. Mais oui, mais bien sûr, mon cher petit. Et on va vous donner une cellule avec un lit. Mais vous allez bien dormir. Vous allez voir. Il est temps d'arrêter. Oh non, bah, il n'est pas temps de commencer quelque chose d'autre, ça que je veux dire. Dans d'autres questions éventuellement, non.